Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Et oui, Tech & Co, la quotidienne, on débrief ensemble l'actu tech avec ce soir sur le plateau. Eh bien, nous avons Frédéric Krebs. Salut Fred.
Bonsoir François.
Ravi de te retrouver Frédéric. Frédéric qui est président de Krebs & Partners. Tu as été aussi le patron d'Allociné pendant plusieurs années. Tu as travaillé aussi dans des grands studios de ciné hollywoodiens, je crois. Merci d'être là parce que l'actualité en plus va t'intéresser tout à l'heure. On va évoquer un sujet qui, je le sais, te tient à cœur. À tes côtés, c'est André Losgood-Pietri qui est là. Salut André.
Salut François.
André qui est le président du JEDI, le Joint European Disruptive Initiative. Est-ce que tu étais à Vivatech?
Bien sûr.
Pas mal quand même.
Ah, c'était très bien.
Intéressant, souveraineté, des boîtes formidables. Tiens d'ailleurs, je fais un peu ma pub. Sachez que la semaine dernière, nous étions à Vivatech. Vous pouvez retrouver tous les replays, tous les podcasts de cette émission avec des invités quand même assez prestigieux. Hein. Le patron d'ASML qui était sur notre plateau et qui expliquait le rôle incroyable de cette boîte européenne qui régit en quelque sorte toute l'électronique mondiale. Hein. Il faut quand même être fier de tout ça. Et on a eu aussi un porte-parole d'OpenAI et beaucoup d'autres invités. Donc à retrouver en replay sur BFM Business, mais aussi sur la chaîne YouTube de BFM Tech. Et Lucas Perraudin est avec nous aussi. Salut Lucas.
Bonsoir François.
Fondateur de AI Partners et auparavant tu étais chez Meta.
AI to Market. On a rebrandé il y a longtemps.
Ah bah attends, oui.
Écrit là.
AI to Market et non pas AI Partners. Voilà. On a fait la petite correction. Et auparavant, je le disais, tu étais chez Meta et tu avais un poste très élevé au niveau européen pour tout ce qui touchait à l'AR et la VR chez Meta. Merci d'être là tous les trois. On va commencer par justement Meta. Ça tombe bien, petite dédicace. Meta qui lance sa propre gamme de lunettes connectées pour atteindre un plus large public. L'objectif est également de conserver son avance sur Google et bientôt aussi Apple, puisque on le sait, Apple est dans les starting blocks. En fait, Meta qui a manqué le virage du smartphone ne veut pas manquer celui des lunettes IA. Frédéric Simotel nous explique tout ça et puis on revient après sur ce plateau.
C'est un peu ça. Jusqu'ici, avec Ray-Ban et Oakley, le modèle était assez simple. Hein. Et si leur Luxottica apportait ses marques, son design, tout le circuit logistique, la distribution et la légitimité sur le marché de la lunetterie. Et Meta apportait la technologie, caméra, audio et la plateforme d'intelligence artificielle. Mais l'Américain se sentait un peu à l'étroit dans ce partenariat. Mark Zuckerberg a plusieurs fois tenté de faire baisser les prix, mais l'industriel européen restait campé sur ses positions. Avec les Meta Glasses, Meta dispose enfin de sa propre gamme de lunettes connectées en associant l'influenceuse Kylie Jenner au design, il cherche à atteindre un public beaucoup plus large et ne veut plus être seulement le fournisseur de technologies caché derrière les Ray-Ban. Il veut en contrôler davantage le design, les formes, les couleurs, les collaborations et surtout les prix. Hein. On parle d'une gamme à $300. Et enfin, le positionnement marketing. À l'instar d'Apple, Meta se comporte autant comme une marque de mode que comme un fournisseur de technologies. Pas d'ambivalence en outre avec Essilor Luxottica qui lui apporte l'outil industriel, les usines, le savoir-faire optique, le réseau mondial d'opticiens. Clairement, le géant américain veut capter et maîtriser une partie de la valeur matérielle en vue des batailles futures face à Google, Apple et des acteurs chinois. Il veut reproduire avec ses lunettes IA ce qu'Apple a réussi avec l'iPhone.
Voilà donc pour ces explications signées Frédéric Simotel. Alors, on va commencer par toi, Lucas, parce que évidemment c'est un sujet que tu connais bien. Tu as travaillé longtemps chez Meta. Tu connais un petit peu l'ADN de cette boîte-là. Logique, a priori, hein, de se dire que finalement on est parti sur le très haut de gamme et comme toujours on ruisselle pour que cette technologie de lunettes connectées, qui visiblement a l'air de prendre, puisse toucher le plus grand nombre.
Effectivement logique. Peut-être par souci de transparence, je veux aussi expliquer que AI to Market, Meta au niveau global pour leur stratégie wearables, donc lunettes, et notre client, et Essilor aussi.
Voilà.
Donc on a un doigt dans chaque dans chaque
clair,
prise,
ça,
juste pour être clair. Et donc je veux pas de langue de bois, mais je préfère que les gens sachent d'où je parle.
Et en gros, pour tout vous dire, Lucas, c'est plein de trucs dont il ne peut pas parler ce soir. Concernant le futur de Meta, etc.
Voilà, si je veux éviter de perdre tout mon patrimoine. Non, mais de toute façon, enfin, comme d'habitude, on va être très transparent. Logique, oui, pour une couverture de marché. Alors, ces produits, ils sont hybrides. Parce que des lunettes, c'est un produit optique et un produit consumer electronics à la fois. C'est un produit d'électronique.
Ouais.
Et donc, il faut être présent sur les deux marchés. C'est extrêmement compliqué. En gros, si on veut remplacer les téléphones mobiles par des lunettes connectées, 50% des humains ont besoin de correction. Donc on a besoin d'être dans les canaux de correction, etc. Et ça, c'est une distribution qui est très compliquée. Enfin, la logistique pour que vous ayez vos lunettes avec la bonne correction en 24 heures, elle est monstrueuse. La supply chain derrière ce truc-là, c'est monstrueux. Donc on est obligé de s'associer. Et puis il n'y a pas beaucoup d'autres acteurs dans le monde que Essilor. En fait, c'est le prochain concurrent qui a ce niveau d'accès au marché. Il est un sixième de la taille. Donc il faut forcément y être. Mais aussi, on parlait d'Apple, on parlait de Google. Ces gens-là viennent, eux, du marché du consumer electronics, de l'électronique grand public. Et donc, il faut être présent dans ces magasins-là. Il faut avoir des prix qui soient adaptés, des façons de gérer, comme disait tout à l'heure dans le reportage, le marketing, la promotion qui soit de ce domaine-là, c'est plus réactif, il y a plus de changements, il y a plus d'adaptation de prix, il y a plus de variations dans le temps. Les lunettes, ça coûte à peu près le même prix toute l'année. Il y a du Black Friday, il y a tout un tas de promotions dans le consumer électronique qu'on peut pas répliquer. Donc ça permet aussi d'avoir cette flexibilité, cette couverture de marché, et c'est vraiment ça qu'ils sont en train d'essayer d'avoir, parce qu'effectivement il y a énormément de lunettes qui sont vendues.
Et Essilor ne sera pas véritablement mise en avant comme il l'est mis aujourd'hui avec Ray-Ban. C'est presque une marque blanche là dans ce cas précis.
C'est une marque propre, c'est une marque Meta.
D'accord. Et c'est Meta qui a confié la fabrication de ces lunettes à Essilor.
A priori, c'est Meta qui fabrique.
Non, c'est Essilor.
C'est
Essilor Luxottica.
Ok.
Les deux marques, les deux marques sont au sein des lunettes. Quand tu regardes
sur
au niveau des manches.
Sur ce modèle
à l'intérieur.
Ok.
Bon, alors intéressant, bien sûr. Est-ce que tout cela est pertinent? Qu'est-ce que vous en pensez, Fred? Et puis après, André.
Moi je salue, si je prends un pas de recul sur toute l'histoire en fait de ces lunettes connectées, moi je trouve que Meta a fait des coups de maître au niveau marketing. C'est-à-dire qu'il faut quand même se souvenir d'un truc, c'est qu'on part d'une situation où Google avait lancé en 2015 les fameuses Google Glass.
Oui.
Qui avait été un four complet avec une vraie défiance de la part des utilisateurs qui n'en voulaient pas parce que c'était trop intrusif, c'était trop visible, parce que c'était un gadget. Google avait lancé en fait un gadget et les gens n'ont pas adhéré complètement, enfin n'ont pas adhéré du tout au principe. Ensuite il y a Snapchat, Snap qui lance toujours donc les spectacles qui sont aussi des lunettes connectées
et qui vient de lancer ses nouveaux, enfin qui s'apprête à lancer ces nouveaux modèles.
C'était très mal reçu par le marché, effectivement. Parce qu'ils sont loin de l'objectif en termes d'encombrement, de qualité, etc. Ça fait tanker l'action littéralement la semaine dernière. Ils sont loin derrière.
C'est vraiment loin derrière. Donc Snap n'est pas réussi en tout cas à diffuser en fait ces lunettes, en tout cas au niveau des objectifs attendus. Et là où Meta a été extraordinairement malin, c'est que ils ont utilisé la plateforme donc Essilor Luxottica, ils ont utilisé les marques Ray-Ban et Oakley en fait pour pouvoir injecter en fait leur savoir-faire technologique et là l'acceptation s'est tout de suite matérialisée. Et avec aujourd'hui, alors je connais pas exactement le nombre exact d'exemplaires qui ont été vendus dans le monde, mais on parle
de 7 millions.
Ouais, voilà, de 7 millions. Donc c'est un véritable succès. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que comme ils savent que Apple va arriver en fait sur le marché, que d'autres vont arriver sur le marché en fait des lunettes connectées, il passe par un prix beaucoup plus bas pour en fait rincer le marché et en fait avoir la primeur et la force en fait d'être présent sur ce marché.
C'était la stratégie sur la VR aussi. Quand le Pro Vision Pro est sorti, la première chose qu'a fait Mark Zuckerberg, c'est faire une vidéo en disant si vous regardez les spécifications d'une autre et le prix, c'est mieux pour un tiers du prix. Ça ne change rien à l'attrait de la marque, etc. Donc ça c'est vraiment la stratégie de Meta, l'accessibilité en fait à tout le monde et couvrir le marché de manière extensive.
Donc voilà, oui, c'est vrai qu'il y avait un petit flottement, mais je te confirme qu'elles sont bien fabriquées par Essilor Luxottica, même si la marque n'est pas véritablement mise en avant, c'est-à-dire qu'elle c'est pas les lunettes emblématiques comme les Ray-Ban ou les Oakley.
Non, tu parlais de marque blanche, François, c'est un peu la marque blanche inversée, c'est-à-dire que normalement dans la grande distribution distribue des produits premium avec des marques dans les différents domaines et fait produire par ces mêmes producteurs à sa propre marque, c'est souvent l'entrée de gamme. Là, ce qui est assez intéressant, et je suis complètement dans la lignée de ce qui vient d'être dit, c'est que Meta D'abord, c'est appuyé sur des gens qui savaient faire des lunettes et surtout, ça a été vraiment un défi d'engineering, notamment l'équilibre, de pouvoir mettre les semi-conducteurs, la batterie et tout ça de manière assez équilibrée sans que ça soit gros. Ça, c'était vraiment une prouesse de hardware et ils ont raison de continuer à bâtir sur le savoir-faire de Luxottica. Ensuite, ils ont une stratégie classique de il y a un entrée de gamme pour qui sera à la marque Meta, il y a le premium qui reste Ray-Ban et Oakley. Non, c'est assez malin et ils ont l'intelligence de garder la distribution qui, comme tu l'as dit, est extrêmement complexe.
L'accès, market access
dans ce domaine.
Que
la vraie question, c'est est-ce que si véritablement les Européens avaient un tout petit peu plus de courage, pourquoi est-ce que Luxottica ne se dit pas, attendez, je suis dans l'hardware, pourquoi j'essaye pas, c'est une occasion en or de rentrer ou du moins d'apprendre. En fait, ce que fait Meta, c'est une stratégie qu'ont fait les Chinois pendant 30 ans. Une stratégie de joint venture, on apprend et maintenant on lance son propre modèle. Donc il y a comme un vrai risque à terme, peut-être pour Luxottica, de se retrouver finalement des fournisseurs de quelque chose qui aura été commoditisé après avoir été très difficile.
Et c'est vrai qu'André a raison finalement, excuse-moi je te coupe, mais c'est pas le plus compliqué. Enfin aujourd'hui, tu vas voir des industriels chinois ou même tu mets quelques milliers d'ingénieurs pendant quelques mois, ils arrivent à te fabriquer ça. Tu vois.
Alors oui, mais il a fallu mettre 14 milliards sur le problème pendant 8 ans.
Oui, c'est ça.
Avant que ça devienne une commodité et que tout le monde sache comment intégrer tout ça. Parce que la recherche-développement open source, c'est Meta qui l'a fait. Moi, j'ai visité les labs il y a très longtemps. Il y a tout un tas de choses qui sont mainstream maintenant, qui ont été copiées et reprises, qui n'existaient pas, qui ont été inventées par les équipes Meta pour que cette technologie devienne omniprésente. Et l'idée, c'est aussi, dans la tête de Zouk, c'est qu'on va remplacer iOS avec MetaOS, donc qu'on soit l'operating system et l'App Store de ces choses-là. Il y a quand même un point qui est hyper important, on parlait des Google Glass, etc. Il faut quand même, il y a un truc qui a permis cette propagation de la technologie, c'est que c'est les LLM, parce que finalement, ces lunettes, elles n'ont pas d'écran aujourd'hui. C'est des assistants multimodaux, on peut discuter avec elles. En gros, c'est ChatGPT à l'intérieur des lunettes.
Il y a un modèle qui est disponible aux États-Unis,
oui,
qui n'est pas disponible en France.
C'est un modèle de niche.
Ouais,
après,
qui est un peu expérimental, on va dire.
Exactement. Mais en fait, les millions d'unités dont on vient de se parler, on est passé de VR à AR, qui était le seul plan, donc avoir des écrans face à nous, à ce que l'IA générative a permis, c'est d'avoir ce produit intermédiaire avec uniquement des caméras, des micros et des haut-parleurs, donc pour capter et discuter, qui permettent de mettre des lunettes sur la tête des gens, d'apprendre plein de trucs sur les usages en attendant que les écrans soient prêts. Donc il y a quand même une rupture technologique au milieu. C'est
en fait, on a simplifié, mais on peut se dire que la prochaine génération intégrera peut-être des modèles.
Les écrans, ça arrive.
Avec.
Mais ça va être intéressant de
plus frugaux.
Ce que tu dis, c'est que est-ce que finalement, Essilor Luxottica va s'émanciper de Meta pour fabriquer elle-même son hardware?
Juste un petit mot, alors c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que ça. La technologie est extrêmement compliquée. Qui fabrique les outils, qui a les lignes, c'est beaucoup plus imbriqué que ça. C'est très compliqué à démêler, à dire l'un fabrique, l'autre fabrique. C'est vraiment un partenariat sur le long terme et ça nécessite. On va dire que la partie électronique, c'est pas non plus le cœur de métier des silos traditionnellement. Donc il a fallu que.
Oui, mais c'est pas le cœur de métier de Meta aussi au départ.
Avec le rachat d'Oculus et de tout le travail qui a été fait, Meta est arrivé avec beaucoup plus d'ancienneté, de moyens, et puis aussi avec les investissements colossaux qui ont été faits. Donc, dans le partenariat, cette partie technologique, elle est quand même très importante de la part de
Meta. Je serais très curieux de savoir si Luxottica met des moyens aujourd'hui pour apprendre extra. C'est une opportunité en or pour eux de monter dans la chaîne. Alors, c'est sûrement très compliqué, mais sur la miniaturisation des batteries, sur potentiellement les écrans, etc.
Les antennes.
C'est extraordinaire.
Ouais, et puis, est-ce qu'un jour, Essilor Luxottica va pouvoir avoir d'autres partenaires technologiques que Meta, finalement? Est-ce que cette exclusivité, ce mariage entre ces deux géants va durer de manière indéfinie? Est-ce qu'il a été, on va dire, signé pour une période bien donnée? C'est ça qui est intéressant.
Ce qui est intéressant, c'est la balance du pouvoir. Paradoxalement, Essilor a beaucoup de pouvoir dans cette conversation, parce qu'encore une fois, pour pouvoir mettre des lunettes correctrices sur la tête de l'humanité, il faut avoir un réseau de distribution qui soit près des gens, avec une capacité de correction. Tout ça, ça veut dire qu'il y a des laboratoires,
c'est le métier,
cuisines.
C'est le métier.
Ouais.
Voilà.
Et c'est un métier très particulier, et dans lequel il y a beaucoup d'inertie. En fait, la barrière d'entrée dans cette distribution-là est très grande, et Essilor a une énorme part de marché. marché. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la,
le
déséquilibre habituel.
Quoi. Ouais, là, c'est deux géants là.
Et donc, Essilor, c'est une bonne mariée pour plein d'autres boîtes. De
et d'ailleurs, il paraît qu'il y a des tensions entre les deux. Enfin, je veux dire, il paraît que c'est pas tout le temps un chemin tranquille.
Sans commentaire.
C'est peut-être un vrai mariage entre égaux dans ce cas-là. C'est ça. Il y a donc des tensions.
Pour terminer sur ce sujet.
Est-ce qu'on a un peu des retours sur l'utilisation effective en fait de ces lunettes?
Alors moi, je peux te le dire. Moi, j'ai la chance d'avoir une paire que je ne mets pas très souvent, j'avoue, parce que j'ai un problème, c'est que l'autonomie n'est pas bonne. Et aujourd'hui, moi, mes lunettes, parce que j'en ai vraiment besoin au quotidien, je les porte du moment que je me lève jusqu'à ce que je me couche. Et l'autonomie de ces lunettes tu peux pas tenir une journée. Et deuxième chose, au bout de quelques heures, je sens quand même le poids des lunettes sur mon nez, en tout cas sur l'arête de mon nez. Alors peut-être qu'elles sont mal réglées, etc. Hein, je dis pas, mais voilà, c'est pas aussi fluide qu'une paire de lunettes toute simple. Voilà. On referme la parenthèse et on enchaîne avec une autre grosse actu liée aux médias. Ça a été le top départ il y a quelques heures pour le deal entre TF1 et Netflix. Après l'annonce il y a un an de l'accord de diffusion des programmes du groupe sur la plateforme américaine, et ça y est, il est désormais possible de regarder Koh-Lanta, The Voice et autres programmes phares de la chaîne sur Netflix après avoir regardé Tech & Co, bien sûr. Toujours Tech & Co en priorité, BFM Business. C'est une première au monde, ce partenariat, qui pourrait ouvrir la porte d'ailleurs à d'autres partenaires entre Netflix et des chaînes. Nathan Cocampo nous raconte tout ça.
35 000 heures de programmes s'ajoutent au catalogue de Netflix. Les grands classiques de TF1, Koh-Lanta, The Voice, Massinger, des séries à succès comme HPI avec Audrey Fleurot, mais également les journaux, émissions d'information de l'ensemble des chaînes du groupe, notamment LCI. Un deal gagnant-gagnant selon TF1, qui cherche toujours plus à élargir son audience en captant les plus jeunes. Le groupe français profitera aussi d'une plateforme reconnue pour sa fluidité et son ergonomie, qui pousse à la consommation. Côté Netflix, la quête d'un catalogue de plus en plus riche et diversifié est un poids de taille pour récupérer des abonnés. Un partenariat logique pour les deux géants, habitués aux coproductions de séries ensemble, comme Tout pour la Lumière, et qui s'inscrit pleinement dans la tendance actuelle des chaînes de télévision. France Télévisions est hébergée chez Amazon Prime et vient de nouer un partenariat de diffusion avec YouTube. M6 est sur Amazon aussi. La chaîne L'Équipe est sur Disney+. Netflix, qui ne ferme pas la porte à d'autres accords du même style avec d'autres chaînes traditionnelles dans d'autres pays. Des mots de son PDG Greg Peters, le partenariat avec TF1 pourrait servir de modèle.
Voilà, reportage signé Nathan Cocampo sur cette actu qui est média, qui est très importante. Déjà, premier partenariat entre Netflix et un vieux média, c'est quand même assez intéressant. Alors toi qui as travaillé chez Allociné, qui suit évidemment l'actualité des médias et la transformation des médias depuis pas mal de temps, qu'en penses-tu?
Eh ben c'est alors il y a plein de façons de voir ce deal. Il y a plein de façons de voir ce deal. Il y a une façon négative, il y a une façon positive. On va discuter de ça là maintenant. Il faut juste quand même remettre un peu tout ça dans son contexte. C'est-à-dire que quand Netflix arrive en 2014, je sais pas si vous vous rappelez, on avait fait une émission d'ailleurs ensemble en septembre 2014, toutes les chaînes de télé classiques disaient attention, c'est les Américains qui débarquent.
C'est l'ennemi public numéro un.
C'était l'ennemi public
bien
numéro
sûr,
un.
Évidemment.
Même avec un petit peu d'arrogance, un peu de mépris, de la part de ces, vous faites pas de direct, vous faites pas d'infos.
Et les patrons de ces chaînes montaient au créneau en disant ils sont en train d'acheter tous les droits de toutes les séries, etc., qu'on ne peut pas diffuser. C'était la guerre.
Exactement. Donc un peu de mépris, et c'est pour ça que c'est un peu drôle maintenant, 12 ans plus tard,
de
voir que la boucle se boucle finalement. Mais entre-temps, il y a eu quand même des initiatives de la part de toutes ces chaînes. On se souvient de Salto, par exemple. La tentative que TF1, M6, France Télévisions ont essayé de se mettre d'accord pour lancer une sorte de contre-Netflix
qui a été fait à reculons, n'importe comment.
Alors, après, c'est toujours très compliqué dans le monde des médias.
Puis c'est facile de commenter un échec, mais bon.
Voilà, ils ont tenté le coup et ça a été lancé en 2020, ça a fermé en mars 2023. Il y a eu en mars 2023, je crois que c'était aux alentours de 500 000 abonnés payants. Faut pas oublier que de l'autre côté, aujourd'hui, Netflix est en France, c'est 15 millions d'abonnés payants. C'est 30 millions de spectateurs uniques par mois, Netflix. Donc c'est ça aussi que TF1 va chercher. Donc voilà, donc Salto, ils ont pas réussi à lancer un truc solide, ça a fermé. Ensuite, faut pas oublier que TF1 et M6 ont essayé de se fusionner. Là, pour des raisons, on va dire, de régulation, ça n'a pas pu se faire. Donc ils ont quand même essayé de se battre.
Pour l'instant, parce que le sujet est toujours. plus ou moins d'actualité.
Ouais, ouais, mais j'ai pas l'impression que ça va avancer.
Tu verras dans 2-3 ans. Quand les obligations d'RTL, parce que vous savez que oui. Le groupe, c'est quoi? C'est Bertelsmann.
Bertelsmann.
Voilà, ils sont obligés d'attendre, je crois, encore 4 ans, suite à l'autorisation des fréquences TNT qu'ils ont eues. Ils sont obligés d'être encore actionnaires du groupe M6 et de RTL pendant 4 ans. Mais dans 4 ans, rien ne leur empêche de revendre tout ça. Donc, on en reparlera.
Ouais, mais il faut pas oublier que là, c'est les deux, enfin c'est TF1 et M6 qui ont abandonné en fait l'idée de fusion.
Hein,
pas une demande du régulateur. Et ensuite, TF1 a lancé en 2024 TF1+. Là aussi, tout seul en solo, leur propre plateforme et donc avec l'essentiel des contenus qu'on va voir sur Netflix, enfin qu'on voit maintenant sur Netflix. Donc c'est assez marrant qu'aujourd'hui, Rodolphe Belmer, donc le patron de TF1,
qui a été au bord de Netflix auparavant.
Absolument, il faut quand même faciliter.
Voilà, il faut quand même. C'est aussi une histoire d'homme de tout ça. C'est ça qui est intéressant. C'est que Rodolphe Belmer travaillait pour Netflix avant d'être patron de TF1. Donc je pense qu'il avait ses connexions et qu'il a aussi insufflé ce partenariat.
Et je pense à raison parce que en fait le travail de TF1, c'est de maximiser ses audiences pour l'ensemble des contenus qu'il produit. Et ça, je pense que c'est un bon deal. En tout cas, c'est un deal intelligent, on va dire, sur le court terme, parce que il y a tout un ensemble énorme, un bassin d'audience énorme, notamment chez les jeunes qui ont l'habitude de regarder Netflix régulièrement. Ce deal-là est important pour TF1. C'est un deal qui est même pas défensif. Au contraire, que je trouve offensif, et c'est une première mondiale. Bravo Rodolphe Belmer, c'est un sacré coup. Derrière ça quand même, il faut pas oublier que dans 5 ans, dans 10 ans, comme la plupart des gens auront l'habitude de rester peut-être sur Netflix pour regarder du TF1 quelque part, et si Netflix décide de changer son algorithme pour une raison ou pour une autre, de changer la
ou de dire merci beaucoup TF1, c'était sympa, mais on arrête notre partenariat.
Exactement.
Et rappelons que la TNT est en train de décliner, qui est on va dire l'un des principaux canaux de diffusion de la télévision. On se rend compte que la TNT est de moins en moins utilisée par les box, par les plateformes de streaming, etc. C'est vrai que c'est quand même un risque.
C'est le risque majeur. C'est que l'habitude soit complètement prise. Il y a une habitude encore plus forte qui est prise aussi avec YouTube, parce que qui reste aussi le diffuseur le plus important, notamment si on regarde les dynamiques aux US. Donc ici en France, voilà, ça va être un pli qui va être pris dans ce sens-là. Et donc on verra bien si ce pari est gagnant en fait sur le long terme. Sacré pari.
Ouais, rappelons quand même que si vous avez Netflix, peut-être l'avez-vous vu depuis quelques jours, vous appuyez sur un bouton, vous avez tout TF1. C'est bizarre quand même. C'est étonnant. D'ailleurs, c'est un peu perturbant parce que moi, typiquement, j'ai un abonnement sans pub de Netflix et je me retrouve avec du contenu TF1 financé par la. Enfin, où il y a de la pub. Je veux dire, je trouve que ça dégrade un peu aussi l'expérience utilisateur que tu peux avoir pour Netflix, que tu payes cher maintenant. Je paye très cher pour avoir un compte premium, etc. Donc c'est pas transparent.
Ce qui va être clé, c'est la mesure publicitaire. C'est-à-dire que si Netflix expose à ses 30 millions de spectateurs uniques ou téléspectateurs uniques, il faut que TF1 soit capable d'attribuer ses téléspectateurs aux publicités qu'ils diffusent pour pouvoir monétiser ça. C'est aussi une manne publicitaire si le flux marche bien pour eux.
Ouais, mais quand tu payes, je sais pas moi, 20 balles par mois pour avoir Netflix,
ça dégrade l'expérience.
En premium, et que tu tapes toutes les pubs de TF1.
Juste une question.
Un peu violent.
Donc moi j'habite en Angleterre, j'ai vu l'accès depuis là-bas. Normalement, ça doit pas être possible, mais j'ai vu en tout cas la
ouais, mais parce que t'as un VPN, t'es un bidouilleur.
Pas du tout. Et j'ai vu autre chose qui m'a marqué, c'est que je vois M6 sur Amazon Prime.
Oui.
Je sais pas si c'est exclusif aux gens qui sont à l'extérieur de la France ou si en France aussi. Donc, par exemple, la Coupe du Monde en français, M6, je la vois sur Amazon Prime, moi.
En Angleterre.
Ouais.
Et ça, c'est bizarre parce qu'en théorie, ça devrait pas marcher.
C'est étonnant.
Il y a des problèmes de droit. Normalement, tu devrais pas y accéder en Angleterre.
Ça marche.
Parce que, et d'ailleurs, ce deal TF1 Netflix n'est valable qu'en France.
En France, ouais.
Tu sors des frontières françaises, ça ne marche plus. VPN. Tu regardes un petit peu ce qui s'est passé.
Ça devait être dans le tunnel sous la Manche.
Ouais, 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 c'est peut-être une histoire de VPN. Alors.
Mais que, une histoire de VPN, ouais, ou alors c'est parce que tu as créé ton compte peut-être en France, oui, que Netflix ou Prime te considère comme français, même si tu es en Angleterre. Il y a peut-être un truc comme ça, mais en tout cas, tu as un compte Prime anglais et un Netflix anglais, t'as pas TF1 et t'as
Et donc M6 Prime, ça existe aussi.
Oui.
C'est aussi une tendance.
Oui,
voilà.
C'est vrai. Ça fait moins de bruit, mais c'est vrai que Prime, et je crois qu'ils ont France Télé aussi.
France Télévision, ouais.
André, t'as suivi tout ça, bien sûr.
Alors, non, pour moi, je pense que c'est quand même un sujet assez défensif. Le coût pour TF1, c'est de rajeunir son audience, ça c'est très clair, d'accéder à cette manne de 30 millions. Là, la dépendance, enfin, on parlait du fait que tout à l'heure que Meta s'affranchissait de Ray-Ban, mais ça sera probablement la même chose qui va se passer. À un moment, TF1 va devenir massivement dépendant de l'algo, de l'algorithme utilisé, et c'est finalement Netflix qui va décider ce qui remonte ou pas comme contenu. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, on vient de dire avec M6 et France Télévisions qui sont aussi sur Amazon Prime, on a de plus en plus les contenus de nos chaînes françaises sur des plateformes américaines. C'est quand même, sur ce point-là, sans être chauvin, je commence à avoir un vrai souci, parce que ça veut dire que de plus en plus, l'accès au contenu sera complètement contrôlé par des plateformes non françaises et non européennes.
Et du gatekeeping, exactement comme dans...
Et c'est les gatekeepers qui font la valeur.
Ce dont on parle sur les App Store, où il y a deux App Store qui ont 97% de market share, de part de marché, pardon, je vais parler français. Et le risque est ça, c'est la consolidation des portes d'entrée sur trois plateformes avec...
Parce que ce qui a été dit tout à l'heure sur M6 et TF1, oui, c'est les deux sociétés qui ont décidé, mais ma compréhension, c'est qu'elles avaient quand même assez peur du régulateur, qui certes n'a pas eu besoin d'intervenir, mais il y a toujours cette espèce d'épée de Damoclès. Là, ça sera quand même assez intéressant. En fait, on empêche la consolidation au niveau franco-français, ou en tout cas, elle n'est pas favorisée. Et en fait, ça incite les acteurs qui sont sous critique en termes de taille. On parlait de 500 000 pour la plateforme streaming enfin pour Salto, finalement de devoir passer par des plateformes américaines. Donc c'est là où on se rend compte que le régulateur, en tout cas la régulation, a besoin d'évoluer extrêmement vite pour ne pas être à la traîne de l'évolution et de ces grands chambardements.
Il n'y a qu'un acteur français qui arrive à faire l'inverse, c'est Canal, qui, rappelons-le, est un peu un diffuseur qui, justement, héberge dans son interface des partenaires américains. Par exemple, Paramount ou HBO, etc. ou Apple TV. Donc, voilà.
Mais Canal perd son monopole.
C'est intéressant parce que l'ancien patron d'Apple, de Canal, c'était justement Rodolphe Belver.
Ouais, mais c'est intéressant parce que Canal perd, en fait, son rôle de... C'était le seul à avoir le monopole d'agrégateur. Aujourd'hui, on commence à voir.
En tout cas, j'espère qu'ils ont une stratégie multicanale avec du YouTube, de la plateforme propre. En fait, il va falloir se garder des options. Oui. Il va falloir donner des plateformes de contact avec les spectateurs pour pouvoir les rattraper dans les différents tuyaux.
Mais toutes ces plateformes sont américaines. C'est ça le problème.
Ouais.
Voilà. Allez, on va faire une petite pause. Il est 20h, pile, sur BFM Business et Tech & Co, la quotidienne. Toujours avec Frédéric, André et Lucas. On repart dans une minute pour, encore une fois, commenter toute l'actu tech de ce jour. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Le retour de Tech & Co, la quotidienne, un grand merci d'être avec nous, toujours sur le plateau de Tech & Co ce soir. Frédéric Krebs, qui est président de Krebs & Partners et ancien patron d'Allociné, c'était il y a quelques années. André Losgood-Pietri est là aussi, président du JEDI, et Lucas Perraudin, le fondateur de AI Partners. Vous savez qu'on évoque souvent l'intelligence artificielle et on va dire toutes ces IA qui aspirent le web, et on évoque souvent en fait tout ce qui touche à l'écrit, les sites web de médias qui sont complètement avalés, on va dire digérés par l'IA. Mais il faut savoir que la musique, et on va dire d'une manière générale, tout ce qui touche à l'audio et vidéo, est aussi absorbé par l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il faut savoir que, par exemple, le modèle de Yann LeCun est très intéressant. Le world model de Yann LeCun, c'est ça. C'est non pas d'absorber de l'écrit, mais absorber de la vidéo et du son, pour fabriquer en fait une espèce d'intelligence artificielle qui comprend son environnement et non pas qu'elle se base que sur l'écrit, en fait. C'est tout le pari de Yann LeCun, d'ailleurs, qui est assez intéressant. On ne sait pas s'il va y arriver. Oui, Lucas.
Non, c'est une correction technique, mais ça.
Vas-y, vas-y, je t'en prie. Moi, je le dis avec mes mots, mais vas-y, explique.
En fait, c'est pour que le modèle trouve lui-même les, qui comprenne le monde tout seul, qui trouve les règles de pourquoi deux choses sont similaires ou dissimilaires, sans qu'on ait besoin de lui expliquer avec des protocoles d'entraînement. On lui dit ça, c'est un chat, photo de chat, et puis 2000 photos de chat avec écrit chat. En fait, on lui montre des photos et le modèle doit déduire ce qu'il y a de similaire et donc en sortir un concept. En fait, c'est des modèles qui conceptualisent. Ça s'appelle des GEPA, Joint Embedding Probabilistique.
D'accord.
Voilà, bon, désolé.
Non, mais c'est pas désolé. Évidemment, c'est très intéressant. Mais ça va mettre du temps avant que ça arrive, tout ça. Et puis, enfin, ce que dit Yann Lequin, c'est que ça va complètement bouleverser la manière dont on va donner de l'intelligence, en fait, à de nouveaux objets. Pourquoi pas la robotique, notamment, parce que c'est vrai que la robotique pourrait être complètement décuplée en termes d'intelligence avec cette innovation. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est Winamp qui attaque, écoutez bien, Nvidia, parce que ben, justement, Winamp a une filiale qui s'appelle Jamendo, qui est spécialisée dans l'accompagnement des musiciens. Ils font la distribution, le marketing, la gestion des droits, etc. Et en fait, ils accusent Nvidia d'avoir pompé en fait tout leur contenu, finalement, sans leur avoir demandé l'autorisation. Une boîte comme ça, Winamp, qui attaque Nvidia, il faut quand même être téméraire, je trouve, pour le faire. Et je voulais avoir votre avis là-dessus. Légitime, évidemment, ce sujet, hein, de se dire, voilà, j'absorbe en fait tout ce contenu multimédia sur le web pour nourrir en fait toute mon IA, sans rétribuer évidemment des droits d'auteur et des sociétés. Ça pose quand même un problème qui commence sur ce sujet. André, allez.
Non, moi je trouve ça hyper intéressant parce que ça va vraiment tester si on peut utiliser des métadonnées, puisque c'est ça que met en avant Winamp, pour démontrer que en fait l'accès libre est différent de liberté totale d'entraîner ces données. C'est-à-dire que ça, il doit y avoir une rétribution à ceux qui ont créé ces données. Et ils font fort, parce que non seulement ils attaquent Nvidia, mais ils attaquent à la fois en Belgique, où ils sont localisés, et aux États-Unis. Donc, ils appliquent une méthode à l'américaine. On y va fort, on montre qu'on est solide. Et moi, je trouve que vraiment, là, il y a un point, parce que l'idée n'est pas de protéger, d'interdire l'utilisation des données, mais de le rétribuer. Il y avait aujourd'hui une réunion avec le président, avec la presse quotidienne régionale, ce qu'aujourd'hui la presse n'a pas réussi à faire par rapport au grand modèle qui aujourd'hui pille, il n'y a pas d'autre mot, le contenu qui est généré et qui fait que de plus en plus aujourd'hui la presse a du mal à justifier parce que la même information va se retrouver très très vite dans tel ou tel modèle. Donc ça va tester et ça va déterminer en fait la manière dont la data va être utilisée. Donc quand on revient sur le sujet World Model dont on vient de parler, ça va peut-être aussi tester la capacité aux grands modèles de langage de voir que les arbres ne vont pas monter au ciel et on va se rendre compte à un moment que la donnée entraînée, labellisée, même industrielle ou il y a une propriété intellectuelle type artistique, elle a une valeur et qu'il faut la rétribuer.
Et en gros,
faut que Winamp réussisse sur ce coup-là.
Oui, il faut que Winamp
réussisse. C'est vraiment une jurisprudence qui va se déterminer par ça.
Ce qui est intéressant, c'est que visiblement les discussions étaient là avec Nvidia, mais Nvidia n'a pas cédé, n'a pas voulu. En fait, c'est pour ça que donc Winamp attaque finalement Nvidia, parce que Nvidia fait la sourde oreille. On parle quand même de pas mal de contenu, hein. Je crois que c'est 300 000 chansons, 60 000 artistes, et en fait c'est pas, alors ça va pas être Rihanna, Michael Jackson, etc. On va dire que c'est de la musique qui sert pour des films, des pubs, des vidéos sur les réseaux sociaux, des sites internet, etc., etc.
L'enjeu de ce procès, il est, c'est une jurisprudence, hein, si on a une jurisprudence.
Là, il va avoir des avocats costauds de chaque côté.
En anglais, on dit c'est une uphill battle, c'est une bataille en montée. Hein, donc, ils vont se prendre des vagues et des vagues d'avocats. C'est un peu la même chose que quand on fait de l'App Store avec Apple et que on va en appel, contre-appel, feinte, voilà, toutes ces feintes de corps, passements de jambes, tous ces trucs-là. Donc là, il faut s'attendre à une bataille monstrueuse. Alors, vont-ils arriver à une jurisprudence? Je sais pas. Après, il y a un autre problème qui est assez fondamental, c'est que d'abord, toute la donnée qui pouvait être aspirée, elle a été aspirée, et que la donnée marginale, incrémentale, elle est relativement faible par rapport au tout le quorum de données qui a déjà été exploité. On parle des modèles de langage. À la fin de la journée, les modèles de langage type LLM Transformer, on arrive à la fin, on prend des mots, on les coupe en petits morceaux et puis on probabilistiquement on les mélange. Oui. Bon, ça, ça ne nous emmènera pas beaucoup plus loin, et tout ce que ça pouvait exploiter comme données, ça a déjà été fait. Donc, quelque part, cette bataille-là, elle peut servir pour la prochaine vague de modèles, la prochaine vague de données. Est-ce que rétroactivement, ils vont en récupérer la valeur qu'ils ont perdue? Ça, ça va être extrêmement difficile.
Mais comme ils attaquent aux États-Unis, c'est le sujet des damages. En fait, ils visent aussi la compensation pour ce qui a été fait, ce qui ne serait pas du tout le cas en Europe.
Ouais. Parce que ça, c'est assez... Est-ce que ce n'est pas compliqué à prouver, ça?
C'est dur à prouver, et tous les gens qu'ils attaquent sont américains avec des intérêts forts dans le pays. Donc, il faut s'attendre à ce que le chemin soit long, difficile et avec beaucoup de sang et de sueur.
Il y a eu tout un débat dans notre pays sur une toute autre affaire sur la lenteur de la justice. Là, on parlait de la régulation sur le droit de la concurrence qui ne doit pas être en retard par rapport aux grandes manœuvres sur les plateformes de streaming. Là, la même chose. Aujourd'hui, la lenteur de la justice profite aux gros.
Évidemment.
Ils se disent, on va faire traîner. Ouais. Et on va épuiser nos...
Et puis dans 5 ans, ils disent, on aura peut-être un jugement définitif dans 5 ans.
C'est un sujet fondamental.
On ne sait même pas où on sera dans 5 ans, dans ce domaine de l'IA.
On n'est qu'au début, là. Enfin, entre la rupture technologique et ce procès-là, là, je veux dire, il y a encore beaucoup de choses à processer.
Avant de donner la parole à Fred, juste, je recevrai Alexandre Sabounjian jeudi soir, qui est le CEO de Winamp. Il sera sur notre plateau, il va nous expliquer clairement pourquoi il attaque Nvidia. Donc, jeudi soir, dans Tech & Co.
Go, Alexandre.
Ce sera aux alentours des 20h15, quelque chose comme ça. Oui, Fred.
Non, juste un très petit commentaire. Je suis pas un spécialiste des affaires juridiques, mais je crois savoir que le montant du préjudice tourne autour des 16 millions de dollars. 16 millions de dollars.
16 millions de dollars, c'est quoi? C'est une seconde de chiffre d'affaires de Nvidia.
Il y aura plus de frais d'avocat que de frais préjudice.
Mais c'est clair, évidemment.
Ouais. Donc, je pense que.
C'est sûr.
Oui, mais c'est symbolique.
Oui. Enfin, c'est une jurisprudence.
C'est symbolique.
C'est briser un mur, là.
Et Winamp s'engage, en fait, pour tout l'écosystème. C'est là où, en fait, il faut véritablement voir le truc. C'est que, effectivement, leur intérêt à eux, probablement, est pas très important. Parce que ça va leur coûter cher, ça, c'est sûr.
Ça va durer longtemps.
Ça va durer longtemps. Ça va prendre du temps de management, etc.
Bon, on en saura plus, donc, avec le CEO de Winamp, jeudi soir. Ça sera plutôt aux alentours des 20h45, et non pas 20h15. J'aimerais qu'on reste dans ce domaine de la propriété intellectuelle, avec un truc qui est en train de se passer qui est énorme. C'est vrai que l'IA rebat totalement les cartes dans le domaine des logiciels, notamment. Prenez le cas de Bain & Company. C'est l'un des plus grands cabinets de conseil au monde en fusion-acquisition. Ils utilisent l'IA pour copier grossièrement des softwares. Carrément. Et ainsi, rendre compte à ses clients de la pertinence ou non de racheter ces derniers. Nathan Cocampo nous explique tout ça, et après, on vous raconte cette histoire qui est incroyable.
Peut-on copier rapidement et facilement ce logiciel avec l'IA? C'est désormais la logique de Bain & Company. Quand un produit se montre intéressant pour ses clients, à l'aide de l'intelligence artificielle, le cabinet de conseil mobilise ses membres pour faire ce qu'on appelle du vibe coding. Une technique de codage sans coder, à l'aide de prompts et l'IA générative, les consultants de Bain ont créé des centaines de prototypes, des bêtas très simples pour évaluer la complexité des produits visés. Si ces logiciels sont imitables en un temps court, sans trop de difficultés, Bain suggère alors de passer son tour sur un achat. A l'inverse, la difficulté à copier le logiciel montre l'avantage concurrentiel que son code, sa technologie peut avoir, mais à l'arrivée, le business model des éditeurs de logiciels est remis en cause et les investisseurs se montrent prudents. 20% d'entre eux indiquent à Bain avoir abandonné un deal par peur de cet impact de l'IA sur le secteur, tout cela sur fond de fort repli en bourse.
Alors évidemment, on va prendre le temps parce que c'est pas que c'est compliqué, mais il faut bien expliquer tout cela. On donnera la parole à Fred et à André, parce que j'imagine que vous avez plein de choses à raconter, mais j'aimerais, Lucas, parce que c'est ton métier en quelque sorte, que tu nous expliques tout ça. Moi, j'ai entendu un témoignage d'un gars qui est pas un codeur exceptionnel, qui, grâce à Claude aujourd'hui, arrive à copier des logiciels qui existent, n'importe quoi, et après se servir de la copie qui a été faite par l'IA et non pas de l'original. Ce qui fait que toutes les licences que vous payiez auparavant, ben vous ne les payez plus parce que vous dites à Claude, ben fais-moi ce logiciel d'une manière un peu différente, tu me le reprogrammes et ben comme ça je l'ai gratuitement.
Ouais, et ce phénomène, il porte un nom, il s'appelle SaaSpocalypse. C'est l'apocalypse.
Après la
RAMpocalypse,
c'est la SaaSpocalypse.
Vraiment, et c'est pour ça que les valorisations. Et là, il y a vraiment deux choses. D'abord, il y a tout ce qui faisait ce qu'on appelle le moat, donc les avantages concurrentiels des éditeurs de logiciels, la difficulté d'avoir accès à des ressources de développement, la bonne compréhension des processus de l'entreprise, l'effet de réseau, plus j'ai d'utilisateurs. C'est un peu difficile de devenir spécialiste dans une entreprise lambda de SAP, de Salesforce.com. Donc il y avait beaucoup de temps pour former les gens, et donc en sortir, il y avait un coup de sortie qui était très fort. Et donc déjà, ce qui se passe aujourd'hui avec l'agentique, c'est que sans recopier le logiciel, on peut avoir les mêmes fonctions, mais de manière très personnalisée. On n'a pas besoin d'attendre la prochaine release de SAP. On n'a pas besoin de... Alors, en gros, moi, comme j'ai passé beaucoup de temps dans l'Amérique corporate, j'étais chez HP et chez Meta, des SaaS, j'en ai acheté. Les SaaS, et le sales rep, il vient et vous dit, ça va coûter 50 millions, ça va prendre 3 ans, et ça va faire ces 5 choses. Et en fait, ça coûte 150 millions, ça prend 9 ans, et ça fait 3 choses sur les 5. Oui, j'ai fait Business Object, SAP, Magento, je les ai tous faits, Salesforce.com, tout ce que...
Ton expérience, en fait, il promet des choses qui ne tiennent pas, ça coûte beaucoup plus cher et ça met plus de temps.
Et c'est parce que fonctionnellement, vous, quand vous avez une entreprise qui est complexe, comme celle dans laquelle j'ai travaillé, vos processus, le software ne peut pas venir se poser sur vos processus. Vous êtes toujours obligé, le software va faire 50% de vos process et vous devez construire des trucs à côté. Oui. Avec
après, c'est du sur-mesure.
Avec des Excel, etc. Oui, mais ces logiciels-là, ils ne sont pas faits pour mesurer. Oui. L'agentique, c'est sur-mesure, c'est un software d'entreprise pour votre besoin, votre façon de travailler. Et puis, si vous voulez changer la façon de travailler, vous n'attendez pas la prochaine release, vous allez changer le contexte. Donc, il y a une plus grande autonomie par rapport à ça. Donc déjà, ça, c'est enlever de la valeur. Mais ça ne veut pas dire que les logiciels disparaissent, mais le marché adressable du logiciel, il est en train de fondre à vue d'œil. Et ensuite, dans ceux qui développent des logiciels, on se dit effectivement, comme on est en train de le dire, en plus, si je demande à un assistant de coding de le faire, donc, en fait, il y a cette ressource qui est extrêmement chère, c'est-à-dire d'avoir des gens qui étaient capables de fabriquer des logiciels par rapport à mes besoins. Je leur expliquais mes besoins et fabriquer un logiciel. Ça prenait longtemps, ça coûtait extrêmement cher. Ben maintenant, ça prend quelques minutes, quelques heures. Et donc, cette barrière-là, elle est tombée. Et donc, maintenant, quand on veut racheter des sociétés, on se dit, ben, est-ce que je pourrais le faire ? Et là, ça n'est que des consultants de Bain qui font du vibe coding. Parce que si on vous met des ingénieurs IA qui font pas du vibe coding, mais du vrai coding et qui utilisent Cloud Code et Codex correctement, je peux vous dire que la barrière que Bain a vue de pas acheter, elle est x2, x3, et il reste beaucoup moins de logiciels. Donc il y a toujours des logiciels, il y en a toujours besoin, transactionnellement. Ces logiciels, ils seront plutôt cachés derrière des agents qui vont aller les interroger. C'est-à-dire que les utilisateurs les voient de moins en moins. On va avoir une conversation avec un agent, l'agent va aller chercher l'information dans le logiciel, la ramener à l'utilisateur, la transformer. Donc il y a une intermédiation qui est en train de se faire aussi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, bon, c'est un peu compliqué, mais ce mouvement-là dans le SaaS, il est gigantesque. Il y a vraiment des empires qui sont en train de se faire, de se défaire en ce moment. Bah, on a vu Salesforce.com, par exemple, qui a très vite, le patron a dit, quand il a vu les agents, bah, on se parle il y a 2 ans et demi, il a dit, on n'est plus une boîte de software, on est une boîte d'agents. Ça s'appelle Agentforce, parce qu'il a compris que les plaques étaient en train de bouger sous ses pieds, quoi, littéralement. Bon, la transformation, je ne sais pas si ça va aller assez vite pour qu'ils puissent...
Mais je trouve qu'il y a un point commun avec le précédent sujet, finalement. Parce qu'on peut se dire que l'IA de Claude qui va faire du vibe coding et créer un logiciel qui va ressembler à un logiciel de Salesforce, par exemple...
Ça va être même plus adapté à ton besoin que si tu avais acheté Salesforce. Donc, c'est encore plus customisé.
C'est ça. Et il va sans doute s'inspirer de Salesforce. Mais un jour, il va avoir des procès partout, finalement, non ?
Oui, mais les bases de code, c'est largement disponible. Enfin, oui. Mais là, pour aller détricoter comment est-ce que le logiciel a créé ça, ça va être très compliqué.
André, impressionnant ça. Hein
oui, non, mais c'est vraiment la SaaS apocalypse.
Moi, j'imagine une boîte comme Adobe, par exemple. Ah, ouais. Ça va être terrible.
Ah, bah, ouais. Adobe, alors, Salesforce, SAP, comme... ServiceNow.
C'est comme une magnifique opportunité de rebattre les cartes. Je veux dire, aujourd'hui, les grands éditeurs de logiciels étaient quand même essentiellement américains. Donc là, la question, c'est quels vont être les nouveaux empires qui vont se créer.
Est-ce qu'il va rester des éditeurs de logiciels à terme, c'est ça,
ben, en tout cas, la valeur, d'abord, c'est la preuve par neuf que l'IA est en train complètement de changer la valeur du logiciel. Et donc, ça va migrer vers des choses qui sont difficilement réplicables. Les workflows, les relations clients, la connaissance métier. Donc ça va être ceux qui maîtrisent cette partie-là, celle qui sera pas réplicable, vont avoir une valeur probablement encore plus importante parce qu'effectivement, comme le disait Lucas, on va pouvoir faire en plus des logiciels qui sont beaucoup plus adaptés à chaque process, à chaque et qu'on va pouvoir faire évoluer parce que de plus en plus les organisations évoluent de plus en plus vite. Donc on va devoir et faire évoluer des logiciels qui ne vont plus... le rythme de changement, il ne va pas au rythme des releases, surtout pour des grandes... Donc en fait, ça va accentuer l'accélération des processus, mais ça va aussi permettre de voir où est la vraie valeur. Et je pense que là, pour le coup, la valeur, elle va plutôt revenir vers des gens qui maîtrisent, voilà, comme je dis, la donnée métier, les workflows, enfin, des choses difficilement réplicables. Je crois que les industriels ont bien fait d'être extrêmement précautionnés sur les données qu'ils livraient, parce que pour le coup, on va pouvoir faire des logiciels sur mesure.
Fred.
Donc moi, ce qui m'intéressait là dans cette info, c'est que c'est tout le travail en fait, parce qu'il faut se rendre compte que Bain, les clients de Bain, ce sont les fonds d'investissement, c'est ceux qui font du M&A, hein, mergers and acquisitions, et ils sont déjà en train de changer ce métier-là, hein, le métier de d'investisseur quelque part. Alors, il faut pas oublier un truc quand même, parce que quand ces investisseurs demandent à Bain, tiens, fais-moi une due diligence. Sur telle boîte qu'on est sur le point sur lequel on est sur le point d'investir, Bain en essayant de répliquer, de cloner en fait la boîte en question, enfin le produit de la boîte en question, il ne répond qu'à une partie du problème, parce que ok, ils réussissent à refaire un produit, fine, mais en fait c'est tout le reste qui est important. Et là je rejoins ce que tu viens de dire à l'instant, c'est les données propriétaires, elles sont où, les données de workflow, elles sont où, les process, où est-ce qu'elle est la véritable intelligence. Typiquement, si moi aujourd'hui je prends Claude et j'essaie de refaire Uber, bah oui, je peux refaire Uber, je peux refaire l'interface d'Uber, mais je serai jamais une réussite comme Uber, parce que j'ai pas l'accès au parc de chauffeurs, j'ai pas l'accès à toute la partie juridique, hein, parce qu'en fait Uber a déploie en fait des forces juridiques dans chaque pays, dans chaque
ville.
Ouais,
mais regarde par exemple, tu as un logiciel de compta qui est hyper pointu, que tu payes une fortune, parce que il y a très peu d'éditeurs de logiciels qui font ce soft pour toi, parce que tu as un métier bien précis. Si demain tu as une IA qui va te cloner ce logiciel et qui va te permettre de l'utiliser de manière complètement gratuite. C'est pas la même chose.
Alors, il y a une chose, hein, c'est de faire la V0, la première version en fait du logiciel, mais après il y a la maintenance. Parce que après il y a des choses, enfin souvent l'IA,
je sais pas, mais est-ce que l'IA fait pas la maintenance aussi,
c'est vrai qu'il y a des barrières d'entrée et que tout n'est pas aussi simple. Et ce qui était dit, alors pour vraiment le vivre au jour le jour avec des grands groupes, nous c'est littéralement ce qu'on fait, c'est la capacité à comprendre un objectif business, qu'est-ce qu'on essaie de produire avec le business, où sont mes sources de données et quelle est ma logique de réflexion. Si je suis capable de comprendre ça et de le mettre dans un flux, dans un agent et pas dans un logiciel, je gagne à tous les coups. Parce que en gros, je fais quelque chose qui correspond exactement à la façon de travailler de l'entreprise, et en plus quand l'entreprise va bouger, qui est modulaire, qui est pas monolithique comme un logiciel qui a des cycles de release qui sont... On parle souvent de AI speed versus human speed, donc l'agent il va à la vitesse de l'IA et le logiciel il va à la vitesse de l'humain. Donc ça c'est là on gagne. La bonne nouvelle, c'est que ça multiplie la demande de logiciels. Parce que si aujourd'hui je suis Essilor, j'ai besoin de mon propre logiciel pour mon propre processus, je suis Saint-Gobain, je suis Orange, je suis Péchy, je suis qui vous voulez, et ben à un moment je vais pouvoir développer ma propre pratique logicielle interne. Et donc on a ce qu'on appelle des pratiques agentiques qui sont en train de se monter, où on a des équipes qui savent fabriquer des agents en interne. Et ça fait qu'ils achètent beaucoup moins de licences des logiciels sous-jacents. Mais par contre, il y a du travail, il y a énormément de travail à fabriquer toutes ces choses-là, à les maintenir, à les faire évoluer. Donc c'est créateur d'emplois, et la demande de logiciels et de code, elle explose. On croit que les codeurs ont plus de job. Moi, tous les codeurs que je connais, y compris ceux qui travaillent pour moi, et j'en recrute beaucoup, ils ont plus de travail avec l'IA qu'avant l'IA. Parce que maintenant, leur niveau de productivité, le niveau de demande, le niveau de personnalisation de ce qu'ils produisent, il est exponentiellement plus élevé.
Après, il y a une notion d'architecte. De plus en plus des architectes dont on va avoir besoin, qui connaissent bien les
processus. Interopérabilité, maintenance dans le temps, toutes ces choses-là.
Et l'autre question, c'est, on a eu pendant longtemps, finalement, un outsourcing complet vers des sociétés de logiciels. Je pense qu'en t'écoutant, il va y avoir aussi une internalisation de ces fonctions, parce que ça devient clé pour optimiser les processus. Et on n'a surtout pas envie de le déléguer à l'extérieur.
C'est la sauce secrète qu'on va internaliser et automatiser.
Passionnant en tout cas ce sujet, et on en est qu'au tout début de la frise chronologique, c'est ça qui est dingue.
Si tu peux me déléguer quelques-uns de tes trucs, ça m'intéresse. Moi aussi je suis en train d'internaliser.
Mais écoutez, dans 5 minutes vous allez pouvoir discuter en antenne sur tous ces sujets sans aucun problème. J'aimerais qu'on évoque, allez, il nous reste quelques instants, cette initiative, en tout cas cette volonté, ça a été annoncé par le Premier ministre Sébastien Lecornu, une date pour introduire des cours d'IA au lycée. Alors, quand je dis des cours, c'est une heure de cours par semaine, à partir de la seconde. Ça commencerait à la rentrée 2027, et je voulais avoir vite fait votre avis là-dessus. Tarte à la crème, ou est-ce que, véritablement, c'est une très bonne idée, ça aurait dû être fait depuis des années, quel est votre point de vue? Tiens, André.
Alors moi, je trouve l'idée est quand même très bonne et très habile.
Je trouve que c'est une très bonne idée aussi.
Et très habile parce que, en plus, on fait passer le message, on veut pas juste les entraîner à utiliser l'IA, mais on veut développer une capacité justement d'architecte. Donc il y a cette notion oui. sous-jacente d'esprit critique.
Etc. De dompter l'IA et non plus d'être, absolument. On va dire, une espèce de, hein, de vassal.
L'honnête homme l'honnête femme du 21e siècle.
C'est ça.
Donc c'est voilà, je suis sûr qu'il va y avoir certains qui vont dire ça y est, c'est les lumières réappliquées à l'éducation nationale. Après le défi, comme toujours chez nous en France, c'est le décalage. Le risque de décalage entre grande annonce et exécution, surtout dans un contexte où il y a déjà pas beaucoup d'heures de sciences et technologies. Donc, est-ce que ça va être en concurrence avec les cours de maths, de physique, de codage? Je ne sais pas. Donc, l'exécution va être clé. Donc, les attentes sont là.
Fred, et après Lucas.
Moi, je salue l'initiative, évidemment. Par contre, je pense que c'est peut-être pas la meilleure façon de le faire. Parce que là, ça va être cantonné, donc une heure par semaine. On va dire c'est un bon début, mais c'est pas suffisant par rapport à l'enjeu.
Enfin, ça fait quand même 40, je sais pas quoi, ça fera faire 40 heures, quoi, à peu près. Ou
c'est, 30... c'est ça. Bon, un peu moins.
On peut en dire, hein, des choses, hein. Enfin, mais, c'est pas mal quand même.
Moi, ce que j'aurais trouvé vraiment intéressant, c'est d'injecter des cours d'IA. Enfin, des cours d'IA, des heures d'IA au sein même des cours principaux. Français, maths, histoire géo, physique, etc. Là, j'aurais trouvé, en fait, un terrain de jeu qui aurait été beaucoup plus intéressant encore. Parce que c'est, en fait, c'est ça le vrai sujet. C'est que, j'ai mon fils qui rentre de Chine, là, il a 16 ans. Il a fait un truc, enfin, il a découvert, en fait, ce que c'était qu'une nation entière qui a compris exactement l'impact de la technologie et l'impact positif de la technologie. Et c'est pas juste un vœu pieux ou un délire, hein. Il est revenu enthousiaste du truc parce que il s'est dit ah oui, j'ai compris ce que c'était que l'IA pour telle chose et c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui il faut embrasser cette techno. Je pense qu'on peut pas reculer, on peut plus reculer. Parce que le monde entier, en fait, y va, et je pense qu'il y a de très bonnes choses, en fait, à en retirer. Et donc, il faut que ça infuse dans tous les cours que peut avoir.
Au lieu d'avoir une heure, c'est-à-dire bête, toutes les semaines, voilà. Ça aurait été bien d'en parler, en fait, dans chaque matière.
C'est ça.
Et dire comment utiliser cette IA.
Au lieu d'avoir un ministre de l'IA, on devrait avoir un peu d'IA dans tous les ministères.
C'est ça.
C'est la technologie transversale par définition.
Exactement.
Tout à fait raison.
Lucas.
C'est une excellente initiative. L'IA, c'est une force inarrêtable qui a déjà fait son chemin dans tous les lycées, les collèges, les universités de France. Oui. Nous, on embauche des ingénieurs qui sont IA natifs, c'est-à-dire qu'ils pensent comment résoudre mes problèmes d'éducation ou ce que je dois faire avec l'IA déjà. Le diable est dans les détails. On ouvre cette fenêtre, il faut qu'il y ait le bon contenu dans cette fenêtre. Pas comment s'en servir, mais comment ça marche. Quels sont les biais, qu'est-ce que l'IA peut faire et qu'est-ce que l'IA peut pas faire, et comment avoir une meilleure collaboration avec l'IA à l'avenir et en garder un esprit critique, ça va être fondamental. Voilà, donc la fenêtre est bonne, l'intention est bonne, l'exécution, comme vous l'avez dit, c'est important, mais c'est une force inarrêtable qui est déjà dans l'air qu'on respire, donc c'est important de le faire.
Ouais. Une petite heure aussi concernant les réseaux sociaux à partir du collège, ça serait une bonne idée.
J'allais le dire, on aurait dû le faire avec les réseaux sociaux, ouais. On aurait peut-être
plus jeune, ouais. Plus tôt, ouais. Je pense.
On a trop attendu pour
à
les
partir
réseaux.
De la sixième. Ouais. L'IA à partir de la seconde, c'est bien, mais je pense qu'il aurait fallu aussi avoir une heure sur les réseaux sociaux pour sensibiliser tous les jeunes à ce fléau, car c'est un fléau quand même. Merci beaucoup à tous les trois. Voilà, passionnant débrief. Merci à Lucas Perraudin. Lucas Perraudin, fondateur de AI Market. AI to Market, pardon. Je suis obligé de lire ton t-shirt pour bien te présenter.
Merci. T'as des bonnes lunettes correctrices.
Ça fait ATM, c'est bien. ATM.
ATM. Merci à André Lochegut-Pétry, évidemment, le président du Jedi, et Frédéric Krebs. Merci à toi, Fred, président de Krebs & Partners. Et vous restez avec nous. On a encore une petite demi-heure à passer ensemble dans Tech & Co, la quotidienne. On va s'intéresser à cette start-up qui partage son temps entre la Silicon Valley et Paris. Elle s'appelle Genesis AI et elle essaie de donner de l'intelligence aux robots. On va tout nous expliquer. Et puis après, on parlera de ce géant de la lecture numérique, Caféine, qui, grâce à des acquisitions, veut devenir tout simplement le Spotify de la presse numérique. En gros, vous donnez 10 euros par mois, peut-être un petit peu plus, et vous avez accès à toute la presse payante en illimité. On recevra le patron de Caféine tout à l'heure. Voilà, petite pause. Et juste après, c'est Léa Benyamim qui nous rejoint pour le Tech Flash, comme chaque soir. Merci d'être là et à tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.